attribution d'un véhicule de fonction. Il s'agit donc depuis une vingtaine d'années, il est permis au directeur de général des services d'une commune de plus de 5000 habitants de bénéficier pour les usages en termes de déplacement liés aux exigences de sa fonction, un véhicule de fonction au DGS. Et voilà, il s'agit d'entériner cela, puisque nous sommes en début de mandat. Je rappelle qu'un véhicule de fonction, il s'agit d'une 308, constitue un avantage en nature qui donne lieu à imposition et à cotisation sociale. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition. Monsieur Somny?
Un véhicule peut être attribué, c'est vrai, par nécessité absolue. Quelles sont-elles pour notre DGS? Le véhicule sera-t-il à naissance? Il sera payé par le contribuable? C'est une voiture pas très écologique. Pourquoi ne pas avoir pris une voiture électrique? On prétend que la commune de Montigny a une direction écologique. Vous achetez un véhicule bien polluant si celui-ci est à l'essence. Pourquoi ne pas avoir acheté un vélo électrique? Surtout qu'on les finance actuellement. Le DGS est tellement indispensable qu'il lui faut payer par le contribuable, comme à Metz. Le DGS n'a pas de véhicule de fonction et gère 2400 personnes contre 309 employés à Montigny-la-Metz. Comment vous expliquez ça? Les Montigniens doivent savoir la différence entre un véhicule de fonction et un véhicule de service. Le véhicule de fonction est mis à la disposition du salarié pour ses déplacements professionnels et personnels, week-ends et congés, alors que le véhicule de service est utilisé par le collaborateur uniquement dans le cadre de ses déplacements professionnels. Aussi, le véhicule est rapporté à la fin de la journée. Je vous rappelle que la mise à disposition de véhicules de fonction au profit des agents des collectivités territoriales et de leur établissement public est sévèrement encadrée comme la loi, comme vous l'avez précisé. Ainsi, au terme de l'article 21 de la loi 28 novembre 90, les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels le véhicule de fonction peut être attribué gratuitement en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de cet emploi. Un véhicule peut être attribué par nécessité absolue de service ou agent occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou le directeur général des services d'une commune. Il en résulte de ce texte que deux restrictions sont apportées à la mise à disposition du véhicule. Il convient tout d'abord que cette mise à disposition puisse être justifiée par une nécessité absolue de service, que vous allez nous expliquer. Il convient aussi que le personnel bénéficiaire figure au nom des agents énoncés par le texte, ce qui semble être le cas. Pouvez-vous nous expliquer votre notion de nécessité absolue de service de notre directeur général des services? Intuitivement, elle suggère que le service exigé exige une disponibilité quasi permanente des personnels en raison du personnel en relation avec l'urgence ou l'importance de leur mission. Les jugements des chambres régionales des comptes relèvent cependant que des véhicules de fonction sont mis à disposition de personnel dont les missions ne répondent pas à ce critère de nécessité absolue. Nous pensons que c'est le cas du DGS de Montigny-la-Metz, à moins que vous nous démontriez l'inverse. C'est coûteux pour le contribuable, dont les impôts financent indûment les usages des dépenses privées. La liste limitative des agents pouvant bénéficier d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de service devrait contribuer à restreindre davantage encore le recours de cet avantage en nature. C'est ce qu'illustre, d'ailleurs, un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 novembre 2015, en relevant que les bénéficiaires d'un véhicule de fonction ne relevaient d'aucun emploi par nécessité absolue de service fonctionnel au sens de la loi du 28 novembre 1990. Le même jugement critique également les conditions dans lesquelles ce véhicule de fonction était mis à disposition, relevant que la possibilité d'utiliser le véhicule à des fins personnelles s'analyse en un complément de rémunération non prévu par les dispositions relatives au régime indemnitaire. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est donc bien un avantage en nature. Les agents de l'État exerçant des fonctions équivalentes à celles de notre DGS ne disposent pas d'un avantage en nature les autorisant à utiliser les véhicules à des fins personnelles. Et je reviens avec l'exemple de Metz et ses 2400 employés. Allez-vous vous doter d'outils de vérification, tels qu'un carnet de bord, retraçant l'utilisation du véhicule, son kilométrage, ses consommations de carburant, privé, en service? Je vous rappelle l'article L2123-18-1-1, créé par la loi de 2013-907 du 11 octobre 2013, article 34. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat, de leur fonction, le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. Quelles sont-elles pour notre DGS ? L'administration attribue un véhicule lorsque ce dernier est nécessaire à l'exécution du service. Comment faisait notre DGS avant, pendant 20 ans ? Par principe, le véhicule mis à disposition est seulement utilisé dans le cadre du service de l'agent. Toutefois, à titre exceptionnel, compte tenu du caractère permanent de la mise à disposition du véhicule de fonction, l'autorité peut autoriser son agent à en avoir une utilisation privée, en dehors des heures de service, pendant les repos hebdomadaires, congés. Cependant, des limites à l'usage privé du véhicule doivent être établies. C'est ce qu'on appelle le périmètre de circulation, horaire, jour d'utilisation. C'est également une circulaire, donc qui date du 5-5-97, circulaire, pour info, NOR-PRMX-10-18-17-8C du 2-7-2010. Y aura-t-il des dépenses imposées ? Si oui, lesquelles ? Les dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien du véhicule de fonction sont prises en charge. Quelles sont les règles fixées ? Il s'agit notamment du carburant, de la révision, des réparations, du lavage du véhicule, de l'assurance. Quel est le coût de ce véhicule ? Bien que les textes ne l'autorisent pas, vous acceptez que le véhicule de service serve à des fins personnelles. Cette utilisation est constitutive d'un avantage en nature, tel que vous nous l'avez démontré tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner son montant ? Avez-vous fixé les règles relatives à l'attribution du véhicule de fonction ? Quelles sont-elles ? Vous ne précisez pas dans la délibération l'emploi ou les missions qui permettent l'octroi du véhicule, ainsi que les conditions de son utilisation. Pouvez-vous les définir ? Avez-vous défini la possibilité d'avoir un usage privé d'un véhicule de fonction ? Si oui, en quels termes ? Avez-vous fixé un périmètre de circulation et éventuellement la possibilité d'y déroger ? Avez-vous déterminé aussi les dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien du véhicule pris en charge ? Et vous devez attribuer le véhicule par un document administratif, lettre, arrêté, convention. Un règlement précise les règles d'utilisation des véhicules de l'administration et devrait accompagner la délibération. Où est ce document ? Quel est son délai de validité, temporaire ou permanente ? La validité de l'accréditation cesse dès lors que l'agent ne remplit plus les conditions. Pour y prétendre, et en tout cas, en tout moment, en cas de nécessité de service. L'utilisation d'un carnet de bord est fortement recommandée. Y en aura-t-il un ? Il permet de détenir une traçabilité de l'utilisation du véhicule de l'administration. Qu'en sera-t-il du paiement par la collectivité des contraventions qu'elle reçoit ? Je vous rappelle que le bénéficiaire du véhicule de fonction doit impérativement souscrire une assurance complémentaire pour ses déplacements privés, notamment pour le transport de tiers. Comme vous le savez, l'utilisation privée constitue un avantage en nature, donc, que vous reconnaissez avec cotisation sociale. Pour calculer les cotisations sociales dues, vous disposez donc d'un libre choix entre l'évaluation forfaitaire ou l'évaluation sur la base des dépenses réelles engagées. Donc, quelle option avez-vous choisie ? Quelle que soit l'évaluation choisie, sommes-nous propriétaires ou locataires du véhicule ? Quel est son coût mensuel et annuel ? Concernant le carburant, comment contrôlez-vous l'usage, kilométrage, parcouru à titre privé ? Est-ce la commune qui payera le carburant à titre privé ? Utilisez-vous une évaluation forfaitaire ? Si oui, combien ? Je rappelle que c'est uniquement lorsque l'agent a eu un usage privé de son véhicule et que son véhicule de fonction, que son utilisation est constitutive d'un avantage en nature. Nous saurons donc, si le besoin s'en fait ressentir, demander par une requête et un mémoire complémentaire au tribunal administratif compétent d'annuler votre décision implicite de rejet née du silence gardé par vous-même ou vos collaborateurs sur notre demande relative à l'utilisation du véhicule de la fonction du directeur général des services. Merci.
Écoutez, monsieur Somny, je crois que cette compilation d'argumentation, d'argutie pompée sur Internet en font une sorte de gloubi-goulba auquel je ne comprends pas grand-chose. Mais cela néanmoins me donne l'occasion, et je vous en remercie très chaleureusement, de rendre hommage au travail qui est effectué par notre directeur général des services et par là même à l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent sous son autorité, que ce soit le comité de direction ou les agents de notre ville. Je suis témoin, en effet, quotidiennement, du travail qui est effectué par ses collaborateurs, par le directeur général des services, qui ne compte pas ses heures, qui, à n'importe quel moment, est obligé de se lever la nuit, qui intervient au même titre d'ailleurs que par exemple le maire ou les adjoints qui sont aussi sollicités lorsque besoin se fait sentir, qu'il intervient très tôt dans l'accompagnement de nos personnels, et notamment j'ai pu le voir au moment de la période de confinement, des personnes qui sont sur le terrain, donc il est sur le terrain avec son véhicule de fonction qui n'est pas un véhicule de service, mais vous avez fait une sorte d'amalgame avec des insinuations qui sont pour ma part indignes et que je trouve tout simplement ignobles. Donc je n'irai pas plus loin. Faites, monsieur, vous qui êtes un grand procureur, faites donc votre réquisitoire et déposez au tribunal administratif ce que vous venez d'indiquer, et les juges apporteront leur point de vue et leur feront leur travail. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Moi, je suis tranquille comme Baptiste et je remercie très chaleureusement, encore une fois, nos collaborateurs qui ont besoin d'outils pour travailler et non pas pour aller en week-end. Merci en tout cas de me donner l'occasion de pouvoir répondre et de rendre hommage à celles et ceux qui travaillent au quotidien pour au service des autres. Merci. Et on peut les applaudir. Voilà. Bien, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Vous abstenez. Très bien, c'est noté. Des votes contre, c'est noté. Je vous remercie.